Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce lundi 8 mars 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Aramco frappé sur la côte est et ouest, une vaste attaque aux missiles yéménites a touché différentes régions en Arabie Saoudite. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Iran a dénoncé la situation honteuse au Yémen, appelant à la fin de l'agression saoudienne contre le pays. Le prix du pétrole a considérablement augmenté après que l'Arabie saoudite a confirmé une attaque par drone et missiles yéménites contre ses installations pétrolières à l'intérieur du royaume. Et puis les États-Unis ont déclaré que toutes les options sont sur la table pour leurs troupes restant en Afghanistan, alors que Washington est confronté à la date limite du 1er mai pour leur retrait. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La Corée du Sud n'a pas encore montré d'action concrète pour libérer les ressources gelées de l'Iran, déclaration ce matin du porte-parole de la diplomatie iranienne Saïd Khatibzadeh. Nous n'avons encore vu aucune action pratique de la part de la Corée du Sud pour libérer les ressources iraniennes gelées par ce pays. Nous attendons à une action concrète, a déclaré ce matin le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a répondu aux questions des journalistes à propos des sujets nationaux et internationaux. Concernant les remarques de l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, au sujet de la libération de Nazanin Zorari, Saïd Khatibzadeh a déclaré « Les remarques hypocrites d'aujourd'hui de Jeremy Hunt ne couvrent pas ses actions destructrices d'hier. Il sait que ce qui est arrivé aujourd'hui pouvait arriver il y a quelques années. Le gouvernement britannique doit également se rappeler que les dossiers des Iraniens arrêtés en Grande-Bretagne sans raison et emprisonnés sans inculpation, tout en violant les droits de l'homme, sont toujours ouverts et nous suivons cette situation. » En ce qui concerne la visite du ministre irlandais des Affaires étrangères à Téhéran et l'avenir de l'accord nucléaire, le porte-parole de la diplomatie iranienne a rappelé la nécessité de la mise en œuvre des obligations de l'Europe dans le cadre du JCPOA. L'Iran a dénoncé la situation honteuse au Yémen, je vous le disais en titre, appelant à la fin de l'agression saoudienne contre le pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la catastrophe actuelle au Yémen est enracinée dans la guerre de 6 ans imposée au pays par l'Arabie saoudite et ses alliés. Dénonçant la situation, le diplomate iranien a déploré le fait que la coalition d'agression utilise même des éléments terroristes au Yémen pour faire avancer ses politiques hostiles. Il faisait référence à un rapport récent des services de renseignement du Yémen selon lequel des terroristes liés à Al-Qaïda aident les miliciens soutenus par l'Arabie saoudite dans le pays. L'Iran a insisté à plusieurs reprises sur un cessez-le-feu et la levée du blocus imposé par Riyad pour mettre fin à la crise. Attaque d'Aramco, le baril de Brent franchit la barre des 70 dollars. Les prix du pétrole ont considérablement augmenté après que l'Arabie saoudite a confirmé une attaque par drone et missiles yéménites contre ses installations pétrolières à l'intérieur du royaume. L'embellie du prix du baril se poursuit. Le cours du Brent a franchi le seuil des 70 dollars pour la première fois depuis mai 2019, en prenant 2,11% pour atteindre les 70,89 dollars. Une hausse survenue après l'attaque des installations du géant saoudi Aramco dans la péninsule arabique. Il y a un mois, le prix du baril avait dépassé la barre des 60 dollars pour la première fois depuis plus d'un an, déjà dopé par des perspectives de reprise de la demande de pétrole en raison du redémarrage de l'économie mondiale. La flambée est survenue après que le ministère saoudien de l'énergie a confirmé qu'un drone avait percuté un chantier de stockage de pétrole à Ras Tanura, l'un des plus grands ports de transport de pétrole du monde. Le ministère a déclaré qu'un missile balistique visait également les installations d'Aramco dans la ville de Dahran. Auparavant, l'armée yéménite avait déclaré qu'elle avait ciblé les installations pétrolières saoudiennes avec 14 drones et 8 missiles balistiques, en riposte au bombardement saoudien. Autre thème, la Corée du Sud va davantage financer la présence militaire des États-Unis. La Corée du Sud va augmenter sa contribution au coût des forces américaines stationnées dans le pays dans le cadre d'un accord conclu avec les États-Unis, a annoncé dimanche le Département d'État américain. L'accord de 6 ans remplace un accord similaire qui a expiré en 2019. Séoul verse actuellement à Washington environ 920 millions de dollars par an. L'accord de principe doit encore être approuvé par la Corée du Sud. Les deux parties ont évité de spécifier le montant convenu pour le nouvel accord. Séoul paie Washington pour sa présence de troupes depuis le début des années 1990. Les deux pays ont également commencé leurs exercices militaires annuels de 9 jours. Environ 28 500 soldats américains sont stationnés dans le pays. Les Américains ont réussi à imposer un bail encore plus avantageux à Séoul, qui dépenserait désormais davantage pour préserver la présence américaine en Corée du Sud, et ceci sous prétexte de vouloir protéger le pays contre son voisin du Nord. Direction l'Afghanistan, les États-Unis ont déclaré que toutes les options sont sur la table pour leurs troupes restant en Afghanistan, je vous lisais en titre, alors que Washington est confronté à la date limite du 1er mai pour leur retrait. Une porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis n'avaient pris aucune décision concernant sa position de force en Afghanistan après la date d'échéance. L'échéance a été fixée dans un accord signé par les talibans et l'administration Trump au Qatar en 2020. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a proposé une conférence pour la paix sous l'égide des Nations Unies à propos de la question afghane dans une lettre récente au président afghan Mohammad Ashraf Ghani, ont rapporté dimanche les médias américains. M. Blinken a noté dans sa lettre que les États-Unis n'avaient pas décidé de retirer les quelques 2500 soldats restants d'Afghanistan d'ici mai, mais il s'est dit préoccupé par le fait que les talibans pourraient obtenir des gains territoriaux rapides en cas de retrait des forces américaines. Les talibans ont déjà appelé dans une déclaration les États-Unis à respecter l'accord de Doha qui prévoit le retrait complet de leurs troupes d'Afghanistan d'ici mai. Selon cet accord, Washington doit retirer toutes les forces internationales dirigées par les États-Unis d'Afghanistan au plus tard le 1er mai 2021. La déclaration des talibans a également averti que toute tentative de changer le chemin convenu est déjà vouée à l'échec. La nouvelle administration US a déclaré qu'elle réexaminait l'accord pour s'assurer que les talibans respectaient leurs engagements, notamment en réduisant la violence. Le groupe affirme qu'il est pleinement attaché à l'accord. Cependant, l'Afghanistan a connu une recrudescence de la violence depuis la signature de l'accord. Septième jour consécutif de manifestations au Liban, des dizaines de manifestants libanais sont descendus dans les rues pour un septième jour consécutif de manifestations contre la crise financière et la paralysie politique du pays. Les manifestants ont brûlé des pneus et bloqué des routes principales dans tout le pays. Ils ont également brièvement bloqué une route principale devant la Banque centrale. La livre libanaise bat un nouveau triste record de dépréciation sur le marché noir samedi. Les dirigeants politiques du pays ne sont pas parvenus à s'entendre sur un plan de sauvetage depuis que la crise a éclaté à la fin des années 2019, lorsque les entrées de dollars se sont taries. C'est alors que le premier ministre désigné Saad Hariri, nommé en octobre, n'a pas réussi à former un nouveau cabinet en raison d'une impasse politique, entre lui et le président Michel Aoun. Le premier ministre par intérim du pays, Hassan Diab, a menacé de démissionner pour faire pression sur les politiciens pour qu'ils forment un nouveau gouvernement. Enfin, des gens ont organisé un rassemblement dans la ville américaine de Minneapolis un jour avant le début du procès pour la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Le procès de Derek Chauvin, policier blanc de 44 ans, qui a tué l'Afro-Américain George Floyd, s'ouvre ce lundi à Minneapolis sur fond de regain de tension. Historique, ce procès sera filmé et retransmis en direct aux États-Unis. Les militants de Black Lives Matter ont demandé justice pour l'homme tué sauvagement par un policier blanc le 25 mai. Le rassemblement a eu lieu un jour avant la sélection du jury pour le procès de l'ancien officier de Minneapolis, Derek Chauvin. Le 25 mai, il était intervenu avec trois collègues afin d'arrêter George Floyd, soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de $20 pour s'acheter un paquet de cigarettes. En pleine rue et devant des passants effarés, Derek Chauvin était resté agenouillé pendant près de 9 minutes sur le cou de quadragénaire noir, menotté et plaqué au sol, bien que celui-ci ait lancé à 20 reprises « Je ne peux pas respirer ». Ces mots, les derniers de George Floyd, sont devenus le cri de ralliement de millions de manifestants qui, alertés par une vidéo du drame, sont descendus dans les rues de Miami à Los Angeles, mais aussi Londres, Paris ou Sydney pour réclamer la justice. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Aramco frappé sur la côte est et ouest. Une vaste attaque aux missiles yéménites a touché différentes régions en Arabie saoudite. Les combattants yéménites ont frappé par missiles balistiques et drones d'importantes cibles à Dahran, une ville située à l'est de l'Arabie saoudite, et dans d'autres villes saoudiennes. Selon les forces armées yéménites, un communiqué précisant les détails de ces attaques et à publier pendant les heures à venir. Plus tôt dans la journée, Ansar Allah, le mouvement populaire yéménite, a fait part de la destruction d'un drone d'espionnage saoudien au-dessus de la province d'Al-Jawf. Ce matin, des explosions de puissante intensité ont retenti dans le ciel de Jeddah en Arabie saoudite. Les médias saoudiens ont ensuite annoncé que la DCA de l'Arabie saoudite aurait intercepté et détruit 8 drones de l'armée yéménite. Ce matin, l'Arabie saoudite a prétendu avoir intercepté et détruit 5 drones de l'armée yéménite et une heure plus tard, elle a annoncé avoir intercepté 3 autres, a-t-on appris d'Al Jazeera. Selon une toute dernière information, les vols à l'aéroport de Jeddah sont suspendus et la résistance a juré de multiplier dans les heures à venir ses raids à mesure que l'aviation US OTAN Golfien multiplierait les raids contre le dernier carré de Ma'arib à conquérir, à savoir là où se situe le gros des installations pétrolières. Par ailleurs, les avions de chasse saoudiens ont bombardé ce midi à 5 reprises le quartier d'Al Nada et à 2 reprises le quartier d'Atan, tous les deux à Sana. Le bilan des victimes n'a pas encore été annoncé. Une source sécuritaire yéménite qui a requis l'anonymat a déclaré que le bombardement des zones d'habitation civile aurait des conséquences dangereuses pour la coalition d'agression saoudienne.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Les 3 signataires européens de l'accord nucléaire de 2015 ont décidé de suspendre le processus de rédaction d'une résolution anti-iranienne lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations basées à Vienne a salué cette décision, affirmant que les tentatives visant à intensifier les tensions inutiles avaient été déjouées par des efforts diplomatiques. En effet, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient fait circuler un projet soutenu par les États-Unis pour critiquer l'Iran pour avoir limité sa coopération avec l'agence. Le mois dernier, l'Iran a mis fin à la mise en œuvre volontaire du protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire, mais aussi aux inspections rapides et instantanées de l'AIEA en réponse à l'inaction des pays européens, notamment de remplir leurs engagements dans le cadre de l'accord nucléaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les principales raisons de cette volte-face européenne au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'avenir du plan global d'action conjoint et bien entendu le positionnement de la nouvelle administration américaine à cet égard. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a déclaré que chaque opportunité qui s'opère rendra plus difficile le maintien de l'accord nucléaire. La décision de l'Iran de s'affranchir graduellement de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire puise dans le retrait des États-Unis et l'incapacité de 3 pays européens d'honorer leurs engagements, a déclaré Hassan Rouhani, ajoutant que l'Iran pourra revenir immédiatement à ses engagements une fois que les autres parties reprendront les leurs. Il a souligné que toute mesure ou toute position contre-productive au sein du Conseil des gouverneurs pourrait entraîner de nouveaux défis et compliquer davantage la situation. Qualifiant la France d'une partie de poids, Hassan Rouhani a déclaré « Les relations entre Téhéran et Paris pourront développer à base d'un point de vue stable et des objectifs à long terme dans le sens des coopérations bilatérales au niveau régional et international. » De son côté, le chef d'État français Emmanuel Macron a déclaré que le maintien de l'accord nucléaire constituait une nécessité pour la communauté mondiale. Il a ensuite mis l'accent sur la poursuite des négociations pour que toutes les parties puissent respecter de nouveau leurs engagements. Emmanuel Macron a souligné que les deux parties devraient franchir les premiers pas. L'Europe est prête à devenir plus active, pendant les semaines à venir pour revivifier l'accord nucléaire, a-t-il ajouté. En effet, l'Iran a rejeté le dimanche 28 février toute idée de réunion informelle avec les États-Unis et l'Union européenne pour discuter de la relance de l'accord nucléaire de 2015, insistant sur une levée par Washington de toutes ses sanctions unilatérales. Il ne leur reste donc que deux voies aux USA, faire de promesses bien sûr fausses pour pouvoir stopper les activités nucléaires iraniennes ou bien annuler immédiatement toutes les sanctions. La première méthode, la même utilisée par Obama, n'a plus d'utilité et n'en avait d'ailleurs jamais. Quant à la deuxième option, les États-Unis ne la souhaitaient aucunement, mais elle serait pourtant moins coûteuse qu'une guerre déjà échouée, l'Iran ayant prouvé sa puissance militaire. L'Iran marche sur la bonne voie, le grand Satan Occident n'aura qu'à se plier.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris M. Jacob Cohen, analyste politique, et depuis Bruxelles, M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et bonjour à mon collègue Cohen.
Monsieur Michel, peut-être à la dernière minute, les trois pays européens signataires de l'accord nucléaire de 2015 ont décidé de suspendre, en effet, le processus de rédaction d'une résolution, d'un projet de résolution soutenu d'ailleurs par les États-Unis au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Qu'est-ce qui a poussé le trio européen à prendre cette décision, Monsieur Michel ?
Les droits au but. L'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, qui est la petite Europe de Bruxelles, puisqu'il existe une seconde Europe qui va de Vladivostok à Minsk, autour de Moscou, la petite Europe de Bruxelles, c'est un peu comme un poulet sans tête qui continue à courir. Les Européens sont noyés de figures contradictoires venant de l'administration américaine. Ça ne se passe pas du tout avec Biden comme il le pensait. Et donc, on a un peu l'idée d'une politique incohérente. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les deux nouvelles qui sont à être dites cette semaine. Vendredi, l'administration Biden a renouvelé pour un an les sanctions contre l'Iran. Elle en a dit, comme prétexte, la même chose que Trump lorsqu'il avait cité les accords de Genève. L'Iran a un programme balistique. L'Iran mène la guerre classique et la guerre hybride. Je dis là-bas, évidemment, le Hezbollah et les ministres pro-iraniennes. Et enfin, l'Iran a une politique régionale agressive. C'est exactement ce que l'Iran devrait renégocier. C'est Téhéran a précisé que ça ne serait pas le cas. La deuxième nouvelle, elle vient d'Israël. Vous savez que l'Israël est un pays qui a occultement la bombe atomique. Tout le monde sait que Israël fait partie des deux puissances atomiques. Et pourtant, pour eux, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de traité de non-prolifération, il n'y a rien. Cette semaine, les Israéliens ont annoncé qu'à leur centrale nucléaire de Dimona, ils allaient produire plus de bombes atomiques. On pense que les Israéliens ont entre 100 et 200 têtes installées sur des missiles de croisière, perchés, modifiés, installés le tout sur des sous-marins allemands de la classe Dolphin. Eh bien, les Israéliens entendent doubler leur arsenal nucléaire. C'est ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est l'administration Biden qui est pleine d'hypocrisie. Et les Européens aussi, parce qu'il n'y a pas un mot pour condamner Israël. Au contraire, c'est cette France que l'on dit des pro-arabes, c'est la France du général de Gaulle dans les années 60 qui a donné l'arme nucléaire à Israël.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Michel. On va tout de suite rejoindre Monsieur Jacob Cohen, analyste politique depuis Paris. Monsieur Cohen, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Je vous fais juste remarquer que j'ai eu beaucoup de peine à entendre ce que disait mon collègue de Bruxelles. Donc vraiment, je n'ai pas saisi tout à fait. Voilà, donc je ne saurais pas lui répondre à ce qu'il a dit éventuellement. Voilà.
Je vous pose la même question, d'une manière peut-être d'accord. Un peu différente, monsieur Cohen. Qu'est-ce qui, justement, oui. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé récemment au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, cette volte-face, revirement des pays européens, des signataires européens. Et pour vous, qu'est-ce qui justifie, justement, cette volte-face européenne au sein de l'AIEA?
Écoutez, Écoutez, moi, je pars du constat que autant les États-Unis que les pays européens, que la Chine, la Russie veulent revenir à l'accord. Bon, et donc une fois cela admis, c'est-à-dire qu'avec Trump, il n'était pas question de revenir sur l'accord, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait qu'on veut revenir à l'accord de 2015. Et évidemment, on rentre dans une espèce de ping-pong diplomatique où chacun avance ses pions. Il y a une partie émergée, publique, émergée de l'iceberg que nous, on voit. Et puis, il y a tout ce qui se passe derrière le rideau, si on peut dire. C'est-à-dire, chaque camp, parce qu'il y a l'Iran contre 5 pays ou vis-à-vis de 5 pays, donc chaque camp avance ses pions. Et parfois, on dirait, on peut avoir l'impression qu'il y a du recul, et puis il y a du mouvement vers l'avant, mais ce sont les jeux normaux d'une négociation ardue, mais à laquelle je pense qu'on devrait aboutir. Voilà, ce sont là juste, comment dire, ça fait partie des négociations, surtout sur un terrain aussi sensible, mais finalement, on peut, pourquoi à ce moment-là on est revenu, etc., ça fait partie juste, comment dire, des va-et-vient qui finiront par aboutir.
Merci, M. Cohen. M. Michel, si vous voulez, on va revenir justement à cette promesse électorale de l'administration Biden. Et bien sûr, depuis son entrée en fonction, les autorités américaines ont réitéré la volonté de la nouvelle administration américaine de réintégrer l'accord nucléaire de 2015. Alors, pour la République islamique d'Iran, cet accord, bien sûr, ne peut pas être renégocié. Et le retour des États-Unis n'a aucun sens sans la levée des sanctions, sans le respect de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU ayant approuvé justement l'accord nucléaire. Alors la question qui se pose, Monsieur Michel, est-ce que l'administration Biden est sérieuse dans sa volonté de réintégrer l'accord, d'autant plus que tout récemment, le leader de la révolution islamique a souligné que, alors, les paroles, ça suffit, la République islamique d'Iran attend des actes, et est-ce que l'administration Biden est disposée et sérieuse, a une volonté sérieuse de franchir ce pas en pratique?
Je pense qu'elle ne l'est pas. Je pense pas qu'elle n'est pas sérieuse. Je pense qu'elle n'est pas sincère. Comme je vous le disais vendredi matin, le communiqué du State Department a été lu. Les sanctions sont renouvelées contre l'Iran pendant une année. On ne peut pas dire à la fois nous revenons dans l'accord de Genève et nous maintenons les sanctions de Trump. Il faut comprendre quelque chose à l'administration Biden. Beaucoup avaient cru que ça allait être un retour aux années Obama, en oubliant qu'Obama, c'était l'homme du printemps arabe, du printemps africain, de la confrontation avec la Russie sur le dossier de la Crimée, de la confrontation avec la Chine et l'Iran. On sait aujourd'hui que l'administration Biden, c'est un mélange de ce qui avait été le régime de Bush 2, c'est-à-dire l'outil militaire, la confrontation militaire, l'administration Obama, les pseudo-négociations, mais tout en préservant les acquis, ce qui pense être les acquis de Trump. Partout, Biden cherche sa confrontation contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, en Afrique, contre un certain nombre de pays, au Proche-Orient, on vient de nouveau de bombarder la Syrie. Il ne faut rien attendre de cette administration. Il ne faut pas oublier que à la tête de l'administration Biden, en réalité, la patronne, c'est Kamala Harris. Kamala Harris, c'est ce qu'on fait de pire dans la gauche californienne. C'est une femme qui est issue des réseaux Obama, mais surtout qui est une proche associée du milliardaire George Soros. Lorsqu'elle était procureure générale de Californie, elle a évité des poursuites judiciaires au fils de Soros, Alexander. Et donc, c'est une enragée de la russophobie, de la sinophobie, de l'iranophobie. Il ne faut rien attendre. Je ne partage pas l'optimisme de mon collègue. Et moi, je pense simplement, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a peut-être une comédie entre les Européens et les Américains. Vous savez, à Hollywood, il y avait dans les films de Hollywood, il y a le mauvais flic et le bon flic. Ce qu'on appelle en français la politique de la carotte et du bâton.
Merci encore, Monsieur Michel. Monsieur Cohen.
Oui.
Et pour vous, justement, l'administration Biden est-elle sincère, est-elle sérieuse? Parce que, alors, Monsieur Michel ne partage pas votre optimisme. Bien sûr, il y a, alors, il y a des paroles, il y a des paroles. Il y a eu, en 2018, de la part des pays européens, la condamnation verbale du retrait des États-Unis. Mais la question qui se pose justement pour le maintien, pour sauver cet accord, alors, qu'est-ce qu'il faut? Et est-ce qu'il y a cette sincérité, ce sérieux de la part des signataires, de tous les signataires, notamment, alors, d'abord, bien sûr, l'administration américaine, mais aussi des pays européens, de vouloir remplir pleinement leurs obligations dans le cadre de cet accord?
Écoutez, vous savez, en diplomatie, je ne crois pas beaucoup à la notion de sincérité. Mmh. Il y a un rapport de force, voilà. Il y a une situation, je pense que si les Européens veulent revenir à l'accord, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Iran, c'est parce qu'ils savent qu'ils veulent éviter une situation, disons, un dérapage vers lequel on ne sait pas où ça peut aboutir. Donc, c'est dans l'intérêt des Européens, de la stabilité d'une région très sensible, très particulière, qu'ils ont établi cet accord. Et les Européens et les Américains n'ont aucune sympathie pour le régime iranien. Donc, ils voudraient tout faire pour le saboter. Donc, s'ils sont arrivés à cet accord en 2015, c'est qu'ils ont estimé qu'il valait mieux cet accord qu'une tension permanente qui pourrait aboutir à des choses qu'on ne voudrait pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que s'il y a, comment dire, cet emballement diplomatique autour de l'accord de 2015 avec l'Iran, c'est qu'il y a quelque part une volonté d'y arriver. Donc, je vois mal, c'est un emballement diplomatique pour des prunes, c'est-à-dire je crois qu'il y a une volonté de l'Occident, en tout cas des Européens et de l'administration Biden, de chercher un accord. Évidemment, ils vont tout faire pour extorquer un accord avec des pressions, etc., au détriment de l'Iran. Donc, c'est pour moi, je pense que c'est une négociation. Ce n'est pas une question d'optimisme. Je pense que les deux parties ont intérêt à arriver à l'accord. Et donc, il va y avoir un jeu de négociation, de rapport de force, comme un jeu de poker. Et donc, je pense que, vu les conditions dans lesquelles il y a cet emballement diplomatique, à mon avis, je vois mal comment on pourrait ne pas aboutir à un accord. Parce que sinon, il y aurait une telle frustration de part et d'autre que il aurait mieux valu ne pas donner des gages comme ça pour rien. Voilà, c'est pour ça que je crois que cette machine diplomatique qui s'est enclenchée, elle ne peut aboutir qu'à un accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a enclenché un processus avec ses hauts et ses bas, ses rapports de force, ses pressions, etc. Donc ce n'est pas une question de sincérité, je pense que c'est une question que les partis ont jugé à un moment donné qu'un accord est préférable à autre chose. Et donc ils feront tout faire avec tout ce que cela comporte de pression, de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi en diplomatie. C'est pas la mauvaise foi en diplomatie n'est pas une nouveauté. C'est tout à fait naturel. Donc pression, mauvaise foi, etc. Mais quelque part, on a montré un certain intérêt pour cet accord. Voilà.
Merci, Monsieur Cohen. Monsieur Michel, dans quelle mesure un accord viable et durable pourrait sortir de ce rapport de force, de ce jeu de poker, comme disait Monsieur Cohen?
Écoutez, je ne partage pas du tout cette vision. Ce qu'on voudrait, c'est soit que l'Iran se désarme, un peu comme la Jamaïque et la Libye de Kadhafi avaient désarmé en 2003. On sait comment ça a terminé. Autrement pas. Simplement, les Occidentaux sont en train de gagner du temps. Je vous expliquais que les sanctions sont renouvelées pour un an, depuis vendredi, par l'administration Biden. Les Israéliens sont en train de doubler leur production de têtes nucléaires. Les Américains sont en train d'organiser ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient, avec Israël, l'Arabie Saoudite, Dubaï et le Bahreïn, qui visent directement l'Iran. Et enfin, il y a bien entendu toute cette politique de confrontation, l'incident dans le Golfe d'Oman, etc. C'est la confrontation. Biden est simplement en train de resserrer les rangs. Vous savez, quand on assiste, ils ne sont pas jugés simplement les rapports de Biden avec les Européens. Il faut voir quelle est la stratégie mondiale. Les Américains sont en train d'organiser l'OTAN du Proche-Orient. Ils sont en train de revitaliser l'OTAN elle-même. Enfin, ils sont en train de revitaliser, comme dans les années 60, ce qu'on appelait l'OTAN, l'Organisation du traité de la vie du Sud-Est, qui réunissait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon notamment. Tout cela, c'est une politique de confrontation vis-à-vis du bloc de l'Est, de Moscou, de Pékin, de Téhéran. Le reste, je ne pense pas qu'il sortira quelque chose. Si les Européens avaient été sincères, ils auraient tout simplement pas lâché les accords de Genève en 2018. Depuis 2018, ils ont suivi la situation Trump en tout. C'est ça qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, Biden est simplement en train de marcher sur les pas de l'administration Trump, malgré les beaux discours médiatiques, les promesses de campagne électorale. Jacques Chirac disait que les promesses n'engageaient que ceux qui y croient. C'est un peu ça qui s'est passé. On me dit pourquoi une partie qui voudrait réellement jouer le diplomatique négocier, retirer le fait, pourquoi elle vient juste, il y a 48 heures, de renouveler les sanctions contre l'Iran pour un an, en les motivant exactement avec le calendrier qui était celui de Trump lorsqu'il a quitté les accords de l'Iran. Il n'y a rien à attendre des Occidentaux. C'est ça que les Iraniens là, je comprends.
Merci. Une toute dernière question à Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, alors,
oui.
Dans un cadre plus général, comment repensez-vous ces évolutions, y compris bien entendu la question du nucléaire iranien, la question de l'accord nucléaire de 2015, dans le contexte des évolutions régionales et internationales, et surtout, comme disait Monsieur Michel, cette logique de confrontation entre les États-Unis et les pays européens d'une part et d'autre part, bien entendu, alors les pays de l'Est et les pays du Moyen-Orient, notamment, je veux dire, l'axe de la résistance.
Oui, je voudrais d'abord poser un principe, c'est que l'Occident s'est toujours montré hostile au régime iranien depuis la révolution islamique. Donc, l'Occident ne fera aucun cadeau à l'Iran. Voilà. Il faut partir de cette base. Voilà. Et si en 2015 il y a eu un accord, c'est parce que l'Occident s'est trouvé d'une façon ou d'une autre contraint de le faire. Voilà. Donc maintenant, et ceci étant dit, même si on aboutit à un accord ou pas, il se peut, c'est vrai que, comme mon collègue le dit, enfin en tout cas j'ai cru entendre, comprendre, il se peut que ce soit une façon de faire traîner les choses avant peut-être une attaque ou d'autres formes d'agression. Mais je pense quand même que il y a un rapport de force qui s'est installé aujourd'hui. Vous savez qu'on parle par exemple d'un OTAN, d'une forme d'organisation de défense à la manière de l'OTAN entre le régime sioniste et les monarchies du Golfe. Donc ça veut peut-être, ça rentre dans ce processus d'encerclement et de pression sur l'Iran. Dans quelle mesure, dans les négociations, cet élément, parce que ça va probablement se faire. Donc c'est une autre forme, c'est une carte que l'Occident veut faire jouer pour faire pression sur l'Iran, pour les faire comprendre. Voilà. On va faire un accord, mais à votre détriment.
Merci, bon, merci, M. Cohen.
Je ne crois pas que l'Iran va se désarmer au point de faire un accord qui lui soit défavorable.
Merci, M. Cohen.
C'est tout un, Pardon ?
Je vous remercie infiniment. Alors,
oui, je vous en prie. Je vous en prie. Merci. C'est très difficile au téléphone. Enfin, voilà.
Merci. Jacob Cohen, analyste politique depuis Paris. Luc Michel, merci géopoliticien beaucoup depuis Bruxelles. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. La province de Fars, située au sud-ouest de l'Iran, s'étend sur une superficie de 122 608 km² et, à ce titre, la cinquième province la plus vaste d'Iran. En tant que l'un des plus anciens centres de la civilisation iranienne et la capitale gouvernementale la plus importante de l'Antiquité iranienne, notamment des rois achéménides et sassanides, la province abrite un grand nombre d'attractions historiques, en grande majorité situées à proximité de ses principales villes. Cette semaine, nous vous présentons quelques villes importantes de la province de Fars comme Jahrom, Lorestan, Abadé, Sepidan, Darab et Gerash. Grande ville de Fars est Lorestan, qui possède également son lot de beauté historique et naturelle. Citons entre autres la forteresse antique Ejder Peykar, à l'est de laquelle la mère de Nadejdah Afshar repose dans un discret monument. Le marché Reysariye, bon exemple de styles architecturaux iraniens juxtaposés, des styles pré-Safavides au Rajar et stratégiquement entouré par plusieurs caravanserais safavides, la citadelle sassanide parvisée et vase, perchée à 200 mètres au-dessus de la ville, la mosquée Jamé de l'Ar, œuvre safavide, le jardin Neshat, enclos sur une belle bâtisse, siège du gouverneur de l'Ar à l'époque safavide, le mausolée de Pir Sorkh, vieille ermite soufie, l'antique réservoir d'eau de Dahanshir, les réservoirs des vases ainsi que le pont safavide Abbasi. La nature du Lorestan mérite également d'être citée, notamment son parc protégé où vivent des espèces végétales et animales parfois endémiques et caractéristiques de cette région à la croisée de plusieurs différentes biosphères. Comme la majorité des villes de la région, Darab possède une histoire prestigieuse que vient rappeler ses monuments. Citons parmi eux le temple de feu d'Azarach, au nord duquel un moulin de pierre sassanide en très bon état peut être visité.
la ville antique de Darabgerd, datant de l'époque des Achéménides et qui, en tant que première capitale sassanide, fut baptisée en l'honneur du roi sassanide d'Arab et construite selon un plan arrondi sur une plaine vaste et fertile. La mosquée Jamé, le plus ancien monument de la nouvelle ville d'Arab, le temple de feu Azajou, à l'extérieur duquel depuis de pierres ont été taillées à même la montagne, le bas-relief de Shapur, datant de l'époque sassanide, montrant les victoires de Shapur Ier contre les Romains, et le village historique de Navaygan, au voisinage de la citadelle Peykan. La nature de Darab, quant à elle, est fameuse pour ses points d'eau, notamment la source de Kasserout qui descend du Zagros et s'écoule dans la vallée Fork sous forme de belles cascades. Les 64 cascades du détroit de Rars, la belle cascade Fadami à l'eau très douce qui ne s'assèche pas même au plus chaud de l'été, le village verdoyant de Laizangan avec ses belles prairies, vergers et grottes, et la source Golabi ravitaillant la ville en eau de façon permanente. Jahrom est une autre ville du Fars où se trouvent des monuments historiques incontournables, parmi d'autres la caverne Sang Shekan datant de l'époque safavide, le temple du feu sassanide situé à proximité du mausolée de Barbat, le légendaire Aed de la cour des Sassanides, la citadelle Gabri dont le puits creusé à même le roc attire l'attention. Citons encore le marché Zindié, datant du XVIIIe siècle, jument du marché Vakil de Shiraz, au style très caractéristique de la période Zand, l'antique village de Behjan, à la nature vierge et préservée, vieux de plus de 15 siècles, l'antique village de Tadvan et sa grotte exceptionnelle, la route des épices, chef-d'œuvre d'ingénierie tracée au XVIe siècle, liant l'Inde et l'Afrique à la route de la soie, la caverne Vara, la forêt de Chartiz, la grotte calcaire Chafar et enfin le village Hakan et ses superbes prairies. Gerash est une ville à la fois ancienne et méconnue. Parmi ses monuments historiques ou naturels, on peut nommer la citadelle de Gerash ou Homayon Dej, datant du XIIIe siècle et bâtie sur un mont, ainsi que le barrage sassanide de Fadar, construit au fond d'une vallée étroite afin d'y recueillir et conserver l'eau douce des rivières qui y passent. À proximité de la ville se trouve également Birke Kal, le plus grand réservoir d'eau de l'Iran dont la date de construction est inconnue, des rénovations y ayant été effectuées à la fin du XIXe siècle. Sepidan est une destination de randonnée et de découverte de la nature. La ville est située à proximité de la passe de Tizap, au fond de laquelle coule une rivière d'eau très douce, protégée par la montagne et fraîche toute l'année. Une autre passe connue de la région est celle verdoyante de Bardioun et ses 12 cascades superposées. Autre source d'eau incontournable, le lac Barm, enclavé entre deux hautes montagnes, Rizboland et Kalagerd. Cette région montagneuse est tout aussi belle à visiter en hiver, alors recouverte de neige, quand la haute cascade Burzian gèle, offrant un spectacle sublime. Parmi les autres cascades des environs, nous pouvons citer Margoun, qui sort du corps même de la montagne, tout près du sommet, ce qui en fait l'une des plus hautes cascades du monde. Et Chikan, situé à l'ouest d'un village de ce même nom et qui s'écoule dans la passe de Rouredan, réputée pour sa nature vierge, car difficile d'accès. Ma Margoune est une des belles chutes d'eau de la province du Fars. Margoune se trouve à proximité de la ville de Sepidan, une ville blottie dans la montagne couverte de forêts épaisses. Sepidan, qui se situe sur la chaîne montagneuse du Zagros, dans le nord du Fars, se distingue des autres villes par ses paysages naturels, ses cascades, ses sources d'eau et ses vertes forêts. En raison de son climat particulier, Sepidan accueille à toutes les saisons de l'année une foule de touristes iraniens et étrangers. Sepidan compte aussi de multiples sources d'eau minérale et des usines de production d'eau minérale qui exportent certains de leurs produits. Les attraits naturels de Sepidan ne se limitent pas à sa température douce et agréable, à ses sources et paysages merveilleux en été et au printemps. L'hiver, cette ville a également beaucoup de charme. Les sportifs viennent, durant les jours fériés de l'hiver, passer de bons moments au sein de la nature généreuse et luxuriante de cette magnifique ville. La cascade de Margoune constitue certainement l'une des curiosités touristiques du monde et fait partie du patrimoine national naturel de l'Iran. Margoune se trouve à 125 km de Shiraz, près d'un village du même nom, à proximité de Sepidan, sur la frontière séparant le Fars de la province de Korkiluyeh-Boyerahmat. Haute de 510 mètres et large d'une centaine de mètres, la chute d'eau de Margoune a créé un fantastique paysage naturel d'une extrême beauté. Ce qui différencie la chute d'eau de Margoune des autres cascades, c'est qu'elle est elle-même le début d'une rivière. L'eau se jette du haut du mont pour tomber en bas sur une largeur de 100 mètres, créant ainsi un ensemble de petites cascades d'eau, à tableau magnifique à vous couper le souffle. De haut mont, des rochers couverts d'algues vertes et des sources d'eau viennent embellir le paysage. La chute d'eau gèle en hiver, créant de belles stalactites de glace.
Thank you.